Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est notre 10e pour la 9e saison et nous recevons aujourd'hui Régis Banquet. Bonjour monsieur Banquet. Alors Régis Banquet, on va essayer de récapituler un petit peu vos principales responsabilités. Vous êtes d'abord maire d'Alzonne, je pense que c'est là que ça commence.
C'est ça.
Vous êtes ensuite président alors de la communauté d'agglomération de Carcassonne qui s'appelle Carcassonne Agglo. Vous présidez également un syndicat mixte important, je pense que c'est assez ignoré, mais on va y arriver, qui s'appelle le SIADEN, le syndicat audois, alors pour l'énergie et le numérique.
C'est ça.
Vous siégez dans d'autres instances, mais on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. En tout cas, merci d'être à ce micro pour justement faire le tour un petit peu de la question. Alors, on va commencer rapidement par la commune d'Alzonne. On a repéré récemment quelque chose qui nous semble intéressant, c'est une bourse au permis. Expliquez-nous, Régis Banquet, comment ça se passe en tant que maire d'Alzonne.
Alors, d'abord, c'est parti d'un constat. Si vous voulez, on a constaté que les jeunes du village avaient parfois, de par la situation familiale, des difficultés à passer le permis. Et donc, on a dit, bon, pourquoi pas, je dirais, instaurer une démarche de solidarité avec ces jeunes. Donc on leur donne une bourse, c'est-à-dire on leur donne 600 euros, mais avec un devoir pour eux. Voilà, on leur impose une contrepartie. Cette contrepartie, c'est de s'investir pendant 2 semaines. Alors soit ils viennent travailler à la mairie, au service technique, au service administratif, etc. Soit ils s'investissent dans une association du village pour accompagner l'association.
Voilà, un geste citoyen, finalement.
C'est un engagement citoyen de leur part pendant les 2 semaines. Qui leur permet de toucher du doigt, quelque part, la vie active de demain, puisque c'est des jeunes qui ont souvent aux alentours de 18 ans. Et ça leur permet, quelque part, de gagner. Parce que c'est important dans la vie d'apprendre à gagner, un droit, ou d'apprendre à gagner une bourse ou de l'argent. Et je dirais que c'est une démarche qui leur permet de découvrir la citoyenneté et comment on peut s'insérer dans une société.
Voilà,
on a des devoirs et on a des droits.
Voilà, absolument. C'est un équilibre fondamental.
Voilà.
Vous avez raison de rappeler, Régis Banquet, qu'il faut rappeler aux citoyens continuellement. Rien n'est acquis, rien ne coule de source. Il faut construire les choses. Alors, vous siégez dans une des plus importantes communautés, alors ce qu'on appelle interco dans le langage populaire, c'est-à-dire une intercommunalité, une communauté d'agglomération, donc une des plus importantes de l'Aude, celle de Carcassonne,
qui est d'ailleurs de France
parce qu'elle est très vaste, je crois.
Oui, c'est la 7e en France.
Par le nombre de communes ou par la surface les deux ?
Nombre de communes et périmètre.
Oui, voilà. Donc, elle va bien au-delà de Carcassonne et de l'agglomération traditionnelle urbanistique de Carcassonne.
C'est un petit département.
Oui, ah bon ?
C'est un petit département. Quand je compare l'agglo de Carcassonne avec la Lozère, bien, on a un budget largement supérieur.
Oui,
on a
et une population.
La Lozère, c'est 75 000 habitants.
Ben oui.
Et nous, on en a 115 000, vous voyez. Donc, c'est quelque part un petit département.
Oui, oui, voilà. Et avec l'agglo de Narbonne, le Grand Narbonne, ça fait les deux grosses agglomérations.
C'est les deux tiers du département de l'Aude.
Oui, voilà, absolument. Bon. Donc, cela pour indiquer un petit peu quel est le pouvoir et l'envergure de cette interco. Alors, il y a un certain nombre de sujets. Bon, par exemple, cette intercommunalité a la spécificité, je ne sais pas, mais en tout cas, à la différence du Grand Narbonne, a un CIAS, c'est-à-dire
Centre intercommunal d'action sociale.
Voilà, c'est intercommunal, ça n'est plus le CCAS classique. Donc, toute cette action sociale est prise en charge par ce CIAS.
C'est ça. Alors, on est un peu atypique au niveau national. Ça a été une volonté des élus, je dirais que c'est à l'époque, pour les plus anciens, ils se rappelleront de lui, c'est Raymond Chézat qui avait initié ça à l'époque, en 2002.
Quand il était maire de Carcassonne.
Quand il était maire de Carcassonne et président de l'agglo de Carcassonne. Donc il a souhaité que toute la compétence sociale soit gérée par l'agglomération. Donc aujourd'hui, on a hérité de ce choix politique-là, mais on ne s'en fâche pas parce que ça nous permet d'avoir un traitement, je dirais, de l'action sociale équilibré sur tout le territoire de l'agglomération. Il n'y a aucune commune qui est laissée de côté. Et donc, notre action sociale, on commence dès le début, avec les crèches, dès le début de la vie, jusqu'à la fin de vie, l'accompagnement des seniors, le maintien à domicile, etc. Et donc, cette compétence sociale qui, bien sûr, pèse
dans le budget.
Dans le budget de l'agglo, et c'est à peu près 1200 agents, ce CIS, c'est une grosse structure.
Oui, donc une masse salariale importante.
Mais, quelque part, ça nous permet d'avoir une action sociale équilibrée, juste et solidaire sur le territoire. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus de l'agglo ne souhaite pas revenir en arrière.
Oui. Et alors pourtant, alors si je puis dire, vous avez, je crois que ça fait pratiquement une année, passé dans cette interco un pacte fiscal, c'est-à-dire vous avez un petit peu revu la fiscalité. Alors, sans faire trop compliqué, grosso modo, on augmente un petit peu la part de l'intercommunalité et on diminue celle de la ville de Carcassonne. Forcément, la mairie de Carcassonne, enfin forcément, en tout cas, la mairie de Carcassonne ne l'a pas accepté vraiment. Et là, je crois même, monsieur le maire, monsieur Lara a déposé un recours en tribunal administratif. Où ça en est, Régis Banquet? On n'en entend plus parler.
Alors, avant de parler du recours, ce pacte fiscal, c'est zéro augmentation d'impôt pour le contribuable. Ça, il faut le savoir. Donc, pour le contribuable, je dirais, qui habite sur la communauté d'agglo, c'est pas un centime de plus à payer. C'est une répartition différente. Et deux, je dirais, pour les communes, c'est aucune perte de fiscalité non plus. C'est pas parce qu'il y a, je dirais, des pourcentages de taxes foncières qui sont transférées à l'agglomération que la commune perd. C'est-à-dire que tout ce que gagne, je dirais, par ce transfert l'agglomération est reversé aux communes par le voie d'une attribution de compensation de façon à ce que les recettes de communes soient les mêmes que s'il n'y avait pas eu ce transfert. Alors vous allez dire, à quoi ça sert de faire ce pacte?
Oui.
Voilà, si c'est pour que ça coûte pas plus cher aux contribuables et que les communes gardent, je dirais, l'intégralité de leurs recettes. Ça sert uniquement dans le cadre, je dirais, de la dynamique fiscale, c'est-à-dire les revalorisations, je dirais, des bases qui sont annuelles et qui tiennent compte de l'inflation. Ces revalorisations de base, donc, engendre une dynamique des recettes, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les recettes augmentent, et cette augmentation, eh bien, elle est partagée 75% pour la commune et 25% pour l'agglomération. Ce qui fait que, je dirais, c'est un partage, quelque part, de dynamique fiscale, mais pas un partage de fiscalité. Mmh. Là, les recettes sont les mêmes pour chaque strate, je dirais, commune, intercommunalité, et c'est sur, je dirais, bien, le développement de du territoire, quelque part, que bien on partage ce développement, parce que quand même, dans ce développement, l'agglomération y est pour beaucoup, notamment au niveau économique.
Oui, alors, bon, il faut le savoir, même si beaucoup d'auditeurs et de citoyens l'ignorent, tout ce qui est économie, zone d'activité aujourd'hui, entre autres, ça fait partie des compétences de l'agglo. On n'aura pas le temps de l'effleurer aujourd'hui, Régis Banquet, mais on y reviendra probablement dans une autre émission. En tout cas, ça, il faut le savoir, c'est effectivement cette dynamique économique.
Mais si vous le permettez, je peux juste dire un mot sur ça. Hein. C'est un exemple que vos auditeurs vont le comprendre. Depuis 40 ans, il y avait une zone d'activité à Béragne qui dormait, tout ça par des chicayas politiques et politiciennes. Moi, dès que j'ai été élu en 2014, j'ai dit « cette zone, on va la faire ». Ça a coûté 15 millions à l'agglo, 15 millions. Mais aujourd'hui, j'ai 1000 emplois qui s'installent là. Donc, ces 1000 emplois, eh bien, c'est une dynamique de territoire qui va s'installer, des habitants qui vont venir, etc., etc. Voilà ce que c'est qu'un choix politique qui engendre un développement du territoire.
Oui.
Voilà, c'est un exemple.
Voilà. Et Rocadest, ça fait partie
Rocadest est un projet privé.
Privé, oui. Donc, sur cette zone.
Non, il n'est pas sur cette zone.
Il n'est pas sur Béragne.
Non, pas du tout. Il est sur une autre zone. C'est un projet totalement privé. Bon. Qui quelque part a été initié bien avant que je sois président de l'agglomération. Donc, eh bien, ce projet, je l'ai subi. C'est pas le mot, mais j'en ai hérité, si vous voulez, sans pouvoir, je dirais, donner l'avis de ma collectivité, puisque ce projet a été initié en 2008 et je n'étais président de l'agglo qu'en 2014.
Oui, voilà. Bon, enfin, ça c'était l'héritage en quelque sorte, voilà. Qu'il faut apprendre à gérer. Alors, de multiples compétences, donc on va se concentrer sur quelques-unes. Et il y a plusieurs sujets qui vous tiennent à cœur, Régis Banquet. C'est d'une part la lutte contre les déserts médicaux. On va voir un petit peu ce que vous faites. Et puis l'eau, on y reviendra un petit peu. La gestion de l'eau dans toute son envergure, voilà des sujets importants. Mais commençons par l'action. Alors, c'est pas forcément le rôle d'une agglo de lutter contre la désertification médicale, mais en tout cas, vous avez pris le taureau par les cornes sur cette action-là. Vous avez, par exemple, reçu récemment les internes de la faculté de Toulouse pour leur faire découvrir, pour leur vendre le territoire, disons les mots.
C'est ça. Alors, écoutez, quand on est un élu politique, la première chose que l'on doit regarder, c'est de quoi ont besoin mes concitoyens. Donc, moi, j'ai placé en priorité, je dirais, sur ces dernières années, la santé. Je ne croise pas une seule personne dans la rue qui ne me parle pas de la problématique pour avoir un rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste, etc., etc. Donc, priorité numéro un, la santé, même si ce n'est pas une compétence, je dirais, classique d'une agglomération. Deux, la transition écologique et en particulier, je dirais, la ressource en eau. Et trois, la jeunesse. Parce que il faut écrire une histoire et faire en sorte que notre jeunesse sache que c'est sur son territoire qu'elle peut construire son avenir. Et pas dans une métropole comme Toulouse ou Montpellier. Elle peut le construire ici. Et donc, ces trois priorités, j'essaye de faire en sorte que ma collectivité puisse résoudre ou tenter de résoudre ces problématiques-là. Et donc la santé, ça passe par, je viens de signer un contrat de préfiguration, un contrat local de santé au niveau intercommunal, ça ne se faisait pas, c'est un des premiers en Occitanie qui a été signé, un contrat local de santé, à la maille de l'interco, parce que j'estime que il faut aménager le territoire. Je ne veux pas qu'il y ait de compétition chez moi entre communes pour savoir qui construit un cabinet médical, qui attire un médecin, etc. Il faut que ce soit un débat partagé par les élus, territoire par territoire, de façon que les médecins et les professionnels de santé soient non pas achetés, entre guillemets, mais accompagnés pour qu'ils s'installent chez nous. Donc, première chose, la signature de ce contrat local de santé. Deuxième chose, c'est la signature d'une convention avec la CPAM, parce que aujourd'hui, on a à peu près 30% de notre population, 30% de notre population qui ne se soigne pas, qui refuse l'accès aux soins, tout simplement par manque de mobilité.
Qui refuse ou qui n'y a pas accès par ignorance ?
Il y a de tout. C'est soit il n'y a pas accès par ignorance, soit qui refuse par problème de mobilité, des personnes âgées qui ne peuvent pas aller chez le médecin, des jeunes parfois qui ne peuvent pas y aller, ou par, je dirais, problème social et financier. Donc je ne peux pas l'accepter. Et donc aujourd'hui, en gros, entre 15 et 20 000 personnes n'ont pas de médecin référent sur l'agglomération, c'est inacceptable.
Voilà, on marque une première pause, Régis Banquet, mais on va revenir, bien entendu, sur cet aspect important, vous le soulignez.